Bonsoir, bienvenue au Collège supérieur pour ceux qui le découvrent ce soir. Pour les autres, c'est une soirée un peu mélancolique parce que c'est la dernière conférence de notre saison et qui va clore en particulier cette série de réflexions sur les grandes doctrines politiques. Ce qui est pour moi aussi l'occasion de vous consoler de cette tristesse en vous disant que vous pouvez venir mardi 28, pour une rencontre qui est à la fois la clôture de l'année écoulée, qui permettra de faire un bilan, d'avoir aussi connaissance de la vie de l'association que nous formons, et puis d'avoir connaissance du programme en avant-première, puisque donc mardi, nous présenterons le programme de l'année prochaine qui ne demande plus que quelques petites finitions, mais dont toutes les dates, les sujets sont fixés. Donc ça vous permettra de prévoir les soirées qui seront consacrées pour vous au Collège supérieur l'année prochaine. Donc, réflexion difficile sur le fascisme. Réflexion difficile, pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est une démarche rarement faite, puisque le mot fascisme est un mot qui est une sorte d'étiquette, est un mot outil qui sert à d'injures, et dont on pense peu qu'il puisse être l'objet d'une interrogation, d'une réflexion. En cela, la philosophie est bien dans son rôle, parce que le rôle de la philosophie, c'est précisément de faire sortir leurs mots, les mots de leur instrumentalisation. Les mots sont des instruments, ils servent d'armes, ils servent d'outils, et parfois on utilise même l'expression « boîte à outils » pour désigner le vocabulaire, expression un peu regrettable. La philosophie, c'est justement reconduire chaque mot à sa complexité pour en ressaisir le sens et faire de notre parole une parole qui puisse être neuve, qui puisse être libre et puisse laisser une place à la vérité. Et non pas simplement donc aux polémiques, aux actions plus ou moins efficaces que l'on attendrait de mots transformés en slogans. Pourquoi est-ce que le fascisme est-il aussi difficile à penser ? Donc, d'une part, parce que le mot sert d'outil la plupart du temps, et puis d'autre part, parce que penser le fascisme, cela voudrait dire que on ne consent pas à dire que le fascisme, qui a été quand même un épisode extrêmement important de notre histoire, de l'histoire de l'Europe, pendant de nombreuses années, on ne consent pas à dire que ce soit un simple accident. Souvent, au fond, quand on présente l'époque des dictatures qui ont régné sur l'Europe dans les années 1930 à 1945, et pas sur des petites surfaces, puisque ça représente l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Roumanie, et on peut même aller plus loin. Souvent, cette époque des dictatures est présentée comme une sorte d'accident, d'irruption irrationnelle, due à quelques fous singuliers, à quelques voyous. Or, par là même, on se dispense donc de penser ce que ces régimes peuvent avoir de spécifique. Cela veut dire que le fascisme n'est pas simplement l'histoire d'ambition personnelle de quelques fous et de quelques bandits. Il faut se rappeler le nombre même de grands intellectuels qui ont adopté le mot fascisme, on peut évoquer bien sûr Gide qui en 1940 en appelait à une dictature française. Mais on peut évoquer Monterland, Thierry Monnier, Brasillac, Drieux-La Rochelle, Jouhandeau, Céline. En Italie, Marinetti, Pirandello, Malaparte. Ce n'est pas des gens négligeables. Et donc il faut se demander pourquoi des gens d'un tel calibre ont pu, à un moment ou à un autre, adopter le mot fascisme pour désigner ce qu'était leur attitude politique. Enfin, pour ceux qui ont eu la patience de suivre les conférences précédentes, puisque là, nous en sommes à la sixième, et j'avais dit en introduction qu'il n'y a rigoureusement que trois doctrines politiques. Le socialisme, le conservatisme, le libéralisme. Et à ces trois doctrines politiques, j'en ai rajouté deux, qui sont donc l'anarchisme, qui nous a réunis dernièrement, et le fascisme. L'anarchisme et le fascisme, je les ai cependant mis dans un statut un peu particulier, car je crois que, et je les ai présentés ainsi, c'est une thèse, qu'il s'agit davantage de refus du politique que d'une attitude politique. J'ai par exemple décrit l'anarchisme comme un refus du politique à la limite de l'esthétique, au fond, et en échappant à ce qui caractérise le politique, c'est-à-dire le dur affrontement entre égaux, égaux à UX. Quand j'ai défini donc dans le chapitre 1 la politique, j'ai rappelé que la politique, c'est ce qui apparaît lorsque nous discutons entre égaux. Et discutant entre égaux, nous avons nécessairement affaire à la contradiction et à la possibilité de la violence. Cette discussion entre égaux, elle est incertaine et âpre. Alors on pourrait souhaiter en sortir, en quelque sorte, en disant « chacun pense ce qu'il veut », enfin je simplifie les thèses, ou alors en sortir en recourant à une unité qui transcende les discordances, une unité qui transcende les débats et met un terme à ces perpétuelles discussions qui sont si stériles et si décevantes, où chacun a l'impression de perdre de ses positions. Et c'est dans ce sens-là donc que j'analyserai, avec le peu de science qui est le mien, quelques caractéristiques donc de ce que l'on appelle le fascisme. La définition la plus simple du fascisme, c'est de dire que c'est un régime socialiste, autoritaire, révolutionnaire et populaire. One more time. Un régime socialiste, autoritaire, révolutionnaire et populaire. J'insisterai sur ces différents caractères et en particulier sur la dimension révolutionnaire du fascisme. Pour ceux qui étaient là dans nos précédentes réunions, puisque cette dernière réunion a une espèce de rôle de récapitulation aussi, on s'est arrêté au cours d'une soirée à la question du conservatisme, que j'ai illustré en particulier à travers des gens comme Burke, par allusion, Maurras ou Auguste Comte. Le conservateur, c'est celui qui, je l'ai décrit ainsi, est sensible au fait qu'il y a des équilibres sociaux et qu'il ne faut pas s'amuser à détruire ou reconstruire la société. Il y a de fait une complexité sociale qu'il ne faut pas trop déranger, et si bien que le conservateur est celui qui est attaché, par exemple, à l'idée des corps intermédiaires, qui est attaché l'idée de la complexité sociale. Il est volontiers aristocrate. D'ailleurs, Burke a une pensée essentiellement d'aristocrate, c'est-à-dire de celui qui pense que dans la hiérarchie sociale, il y a différents ordres de responsabilité. Telle n'est pas la position fasciste qui est liée essentiellement à l'émergence des masses. Le fascisme est contemporain de l'émergence du phénomène des masses. Quand je dis masse, j'évoque au fond cette espèce de matière sociale qui serait un inconscient collectif une pure force insurrectionnelle qui ne peut pas se satisfaire d'une tradition, et ces masses vont aspirer à renverser le vieux monde. Alors que le conservateur est celui qui va s'efforcer, au contraire, de le maintenir dans ses équilibres précaires. Si bien que la coïncidence historique assez fréquente des milieux conservateurs et fascistes est un malentendu qui ne pèse pas peu dans la difficulté de l'analyse du phénomène. C'est pourquoi, pour essayer d'atteindre un espèce d'idéal type du fascisme, je le caractérise donc comme socialiste, autoritaire, révolutionnaire et populaire. Pour souligner le propos, je cite Rebattet dans « Les décombres », donc Rebattet qui a été un grand auteur fasciste français, ancien mariste, dit « Le fascisme doit être avec rigueur anti-oligarchique, anti-juif, anti-parlementaire, anti-maçonnique, anticlérical. On ne transige pas avec des adversaires tels que les juifs, les prêtres, les comitards, les affairistes. On les écrase, on les plie à sa volonté. » J'aurais pu retenir beaucoup d'autres citations. Pourquoi est-ce que j'ai retenu cette citation ? Parce qu'on y voit bien justement, à travers la répétition des « anti », l'hostilité, voire la haine, à l'égard de de tout ce qui ne serait pas la masse, c'est-à-dire de toutes les représentations, de toutes les de tout ce que j'ai appelé tout à l'heure les corps intermédiaires, voyez, anti-oligarchique, anti-parlementaire. Si on est anti-juif, c'est pas pour des raisons racistes, mais c'est par rapport aux juifs comme incarnation du riche. Du pouvoir de l'argent détesté. Le fasciste est caractérisé par cette détestation du pouvoir de l'argent qui court tout au long des discours et qui serait en quelque sorte incarnée par les oligarchies diverses que j'ai énumérées. Il aurait fallu d'ailleurs ajouter les intellectuels. Je caractériserai donc, je développerai pas tous les aspects. Je développerai premièrement l'idée du fascisme comme régime autoritaire, deuxièmement comme régime révolutionnaire, troisièmement comme régime socialiste. Régime autoritaire, régime révolutionnaire, régime socialiste. Régime autoritaire, c'est ce qui est le plus clair et qui d'ailleurs justifie, enfin explique, vous voyez, dans l'énumération que j'ai faite, cette énumération est classique, mais elle fait fi de toutes les nuances. Par exemple, on peut tout à fait discuter de ranger Salazar et Franco parmi les fascistes. Salazar et Franco ont instauré des régimes autoritaires, des dictatures. En revanche, on ne voit pas chez eux de volonté révolutionnaire. Au contraire, ce sont des penseurs essentiellement conservateurs. Alors que Mussolini, Hitler et les fascistes français sont des penseurs révolutionnaires. Mais revenons sur cette idée donc de régime autoritaire. Le régime autoritaire, vous le savez, c'est celui qui supprime les libertés publiques. C'est intéressant, cette suppression des libertés publiques. Enfin, il supprime, les diminue. Qui comprennent la pluralité des partis, qui comprennent la liberté de presse, etc. Liberté d'opinion. C'est intéressant parce que dans la préface que j'ai faite au premier chapitre, j'ai insisté sur l'apparition dans la modernité de ce que l'on appelle l'opinion publique, c'est-à-dire l'étonnement qui naît encore chez nous de l'apparition de cet espace de libre discussion où tout le monde peut intervenir et où aucun ne peut se réclamer de son autorité. C'est ce qui explique l'émergence de ce que l'on appelle les intellectuels. Les intellectuels sont apparus avec la création de l'espace public de libre discussion, espace public de libre discussion dans lequel le fait de détenir une autorité religieuse ou politique n'autorise pas davantage sa parole. Et donc ce qu'on appelle l'intellectuel, l'émergence de l'intellectuel, eh bien c'est celui qui va publier son opinion dans des livres, des libelles, des journaux, des sites, des blogs, etc., profitant du libre espace d'interlocution où aucune autorité ne peut prévaloir. Et c'est ainsi que les intellectuels et puis d'autres constituent donc des sortes d'oligarchie qui nuisent ou semblent nuire à l'unité, à la cohérence. On est scandalisé de voir que n'importe quelle opinion peut être publiée, les plus absurdes, on en voit même prévaloir. Et c'est pourquoi donc une conception autoritaire, parce que populaire, autoritaire parce que populaire, témoignera donc d'hostilité à l'égard de ces intellectuels, de ces corps intermédiaires de la pensée et de la vie commune, pour faire prévaloir la figure éminente du chef. Ce qui caractérise le fascisme, c'est la figure du chef. Le Duce, le Führer, le Caudillo. Si on dit le Duce a toujours raison, ça n'est pas parce que Mussolini est plus intelligent que les autres, mais c'est parce qu'il est le Duce, le chef. Et le chef, vous voyez, est différent du souverain. Le souverain, il reçoit sa légitimité d'une tradition. Le chef, il est l'émanation de la masse. Il est proche de la masse. Il se dit de la masse. Il ne se dit pas héritier d'une lignée. Au contraire, on va vanter chez lui, chez Hitler aussi bien que chez Mussolini, le fait qu'il soit issu de la masse. Et que, justement, il parle le langage de cette masse. Le chef est l'incarnation d'une volonté. Ce qui caractérise le chef, c'est qu'il exprime une volonté. Cette volonté, elle a même plus la nuance d'une énergie que celle d'un raisonnement. C'est une volonté au sens nietzschéen du mot, familièrement nietzschéen du mot, c'est-à-dire qui est une force plus que une raison qui se ferait valoir. Cette figure du chef, donc, qui exprime une volonté, exalte la volonté. L'exaltation de la volonté est une caractéristique des régimes fascistes. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on les ait souvent, et pas sans raison, assimilés à des influences nietzschéennes. Cette figure du chef, à la fois aimée et sans faiblesse, est omniprésente dans la littérature des années 30, et pas seulement chez les fascistes. C'est très intéressant quand on lit la littérature des années 30 de voir que, au fond, tous les grands écrivains des années 30 sont fascinés par la figure du chef. Malraux est fasciné par la figure du chef. Monterland, bien sûr, mais Saint-Exupéry aussi. Pensez, par exemple, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont lu, pensez à Vol de nuit. Vol de nuit, c'est un livre qui met directement ses pieds dans les traces du fascisme, qui n'existait pas encore. Ou qui était. Pourquoi ? Parce que, précisément, on y exalte l'énergie, la volonté, la dure énergie à travers laquelle les hommes trouvent à se dépasser. J'extrais quelques citations de Vol de nuit que je suis allé relire pour l'occasion. Rivière, donc, qui est la réincarnation de Dora, le fondateur de l'aéropostale, le chef par excellence, dit de ses subalternes « Ces hommes-là sont heureux parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils l'aiment parce que je suis dur. » Ces pages peuvent sembler étranges, mais au fond, elles ont été lues avec sympathie par des générations et des générations. J'en lis d'autres. Saint-Exupéry commente un peu plus loin à propos de l'attitude de Rivière à l'égard de ses hommes. L'homme, l'être humain, l'homme était pour lui une cire vierge qu'il fallait pétrir Il fallait donner une âme à cette matière, lui créer une volonté. Il ne pensait pas les asservir par cette dureté, mais les lancer hors d'eux-mêmes. Donc une figure exaltée, exaltante d'ailleurs, par certains côtés, de l'autorité qui permet aux hommes de sortir d'eux, de tirer d'eux-mêmes plus qu'eux-mêmes, en quelque sorte, par le don de soi. Et le chef est en mesure de faire surgir ce don de soi parce qu'il est aimé. Souvent, quand on évoque le fascisme, on évoque l'idée de la haine. Ce qu'il y a de plus frappant, ces derniers mois, beaucoup parcouru la littérature fasciste, ce qu'il y a de plus frappant dans cette littérature, c'est au contraire l'exaltation de l'amour. Vous avez des textes complètement, à la limite, délirants sur l'amour voué au chef. Vous avez des descriptions extraordinaires du Duce, du Führer, objet d'amour. Est justement vénéré par les masses, par les foules. Je pourrais taper au hasard, vraiment, parce que si vous allez ouvrir la littérature de cette époque, vous y verrez cela. Entre autres, j'extrais cette page d'un livre de René Benjamin, qui a été un grand auteur collaborationniste. Si vous avez l'occasion, comme moi, de trouver ce livre chez les bouquinistes, ne manquez pas de le lire. Il s'appelle « Mussolini et son peuple ». Le livre a été écrit en 1934. Et voilà comment René Benjamin raconte son arrivée à Rome. Rome, un triomphe de la volonté. C'est parti. Elle paraît petite, mais cette ville qui veut être la plus grande entre ces sept collines sacrées par l'histoire. Elle est serrée, ramassée comme l'ambition. Pas de flèches, des dômes. Rien qui s'élance. Tout est massif. Mais quelle force! Quelle résolution! Ville lourde! La gloire n'est jamais légère. La ville du monde où on a le plus voulu, d'où il est sorti le plus d'actes forcément décidés, c'est le plus beau théâtre des ambitions humaines. Il n'y faut pas de petits acteurs. Et j'ai pensé tout de suite à celui qui l'occupe, Mussolini. On le classerait dans les hommes politiques, c'est une vue superficielle. Il faut que ce soit d'abord un grand poète qui organise un grand poème sur la plus grande des scènes, un poète dramatique, créateur d'idées, de gestes et de symboles. Je l'avais bien vu depuis mon passage de la frontière. Il ne crée pas des lois, il nourrit des âmes. Voilà le chef. Il ne crée pas des lois, il nourrit des âmes. C'est-à-dire que il n'a pas besoin des médiations, il n'a pas besoin des mots, il n'a pas besoin que nous importe la loi. Le chef se lit d'âme à âme. Et la lecture d'âme à âme, l'inhabitation des âmes en quelque sorte, c'est précisément l'amour. Et voilà pourquoi le chef est aimé. Et s'il inspire, ce n'est pas par la contrainte de la loi, c'est par l'amour que suscite son grand poème, vous voyez, son art d'artiste qui crée des symboles. Vous ne me croyez pas quand je parle d'amour, vous ne me croyez pas parce que vous avez appris que le fascisme était un régime de haine et d'oppression, ce qu'il est sans doute. Mais on ne comprendrait pas qu'il est un régime de haine et d'oppression si on ne comprenait pas d'abord qu'il est un régime d'amour, c'est-à-dire dans lequel une masse croit parler d'âme à âme avec un homme. Sinon, ça ne marche pas. Alors, bon, je pourrais vous lire tout le bouquin. Il est vraiment extraordinaire. Je pourrais même vous le prêter, mais comme il est très vieux et un peu abîmé, je ne vous le prêterai pas. Alors, René Benjamin raconte que sur les toits de Rome, il discute avec la jeunesse romaine qui témoigne de son amour pour le Duce, bon, etc. Il y en a des pages et des pages. J'achevais cette réflexion en considérant ces jeunes hommes qui venaient d'avoir tous trois un si libre langage quand l'un d'eux, avec des yeux où montait une flamme droite comme son âme, dit encore « Monsieur, Voulez-vous le mot de la fin ? Ces questions de liberté que vous vous posez sur nous, nous ne nous les posons plus parce que nous aimons. Nous aimons notre chef, en sorte que, même si nous n'étions plus libres, nous serions heureux. Ouais. C'est le discours de la passion. Je n'ai pas besoin de liberté, j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin de lire directement dans ton âme, et donc c'est la transposition romantique. On n'en finirait pas de décrire les sources romantiques du fascisme. C'est la transposition romantique du discours de la passion sur le plan politique. Allez, puisque je vous lis quand même. Alors, par exemple, on se pose la question de savoir si le régime de Vichy est un régime fasciste. Le mot « révolution nationale » est typique d'une inspiration fasciste. Il y a l'idée de révolution. Et dans la figure du chef vénéré en Pétain, il y a aussi la même fascination, le même amour. Et donc les Français en 1940 cherchaient quelqu'un à aimer, après avoir eu à mépriser un tas de politicards véreux, quelqu'un à admirer. Alors là aussi, il y a des kilomètres de texte. Je lis simplement l'éditorial d'un journal qui raconte la visite du maréchal Pétain à Marseille en 1940, pour que vous ayez une idée de la littérature qui entoure cette dévotion. Alors le maréchal arrive. « Tout s'harmonisa dans une dominante d'inégalable pureté. Un ciel qu'on eût dit paré de la main pieuse qui avait pavoisé nos maisons. Une foule aussi attendrie que son ciel, gentille et frémissante, avec ce je ne sais quoi d'ému, de grave, de spontané, d'enthousiaste et de pathétique, où se gravait en accent d'infinie noblesse une ardeur qui gardait sa mélancolie. » Bref, autour du père acclamé et du chef exalté, une image palpitante de l'Union française, proférant les mêmes vivates, faisant les mêmes gestes, versant les mêmes larmes, secouées des mêmes frissons. J'ai retenu ce texte parce qu'il nous montre bien que dans la figure du chef, c'est une figure de l'unité du peuple qui est manifestée. Oui. Avoir les mêmes frissons, les mêmes larmes, les mêmes émotions, aimer en même temps. Et c'est ce qui permet de comprendre la superposition de la figure du père et de la figure du chef, qui justement relève du même vocabulaire sentimental. C'est ce qui explique deux détails significatifs. Le premier, remarqué par René Benjamin quand il arrive en Italie, et que l'on peut remarquer sous le régime de Vichy et que l'on peut remarquer sous tous les régimes semblables, c'est l'omniprésence du portrait. Des millions et des millions et des millions de portraits du maréchal Pétain ont été faits. Il y avait un portrait du maréchal Pétain dans tous les foyers, dans tous les magasins. De même qu'il y avait un portrait de Mussolini dans toutes les salles de classe, dans tous les foyers, dans tous les magasins, dans toutes les familles. Et l'omniprésence du portrait est justement la manifestation d'une présence quasiment, j'oserais pas dire sacramentelle, mais incarnée, quoi, du chef en tous les lieux. Sa confusion avec tous les aspects de la vie quotidienne. Et ça n'est pas un détail seulement. Dans ces portraits, on peut y souligner aussi, puisque le chef est une incarnation de la volonté, on peut y souligner l'importance du regard. Non pas au sens de « Big Brother is watching you », ce n'est pas le regard qui surveille, mais c'est le regard qui symbolise, qui inspire, le regard du poète. Là encore, je lis René Benjamin, car René Benjamin, au terme de son séjour à Rome, a eu la chance de rencontrer Mussolini. Et alors il dit « Ce qu'il y avait d'inattendu dans mon cas, c'est que j'étais venu le voir et c'était lui qui me regardait. On croit entendre parler d'une icône. Voyez. J'étais venu le voir et c'est lui qui me regardait. Avec quels yeux ? Les yeux de Mussolini. J'eus la sensation immédiate, forte, inoubliable, que jamais, jamais de ma vie, je n'avais vu des yeux pareils. C'était des yeux d'empereur, enfin comme je me figure que devait en avoir un empereur. Des yeux qui n'étaient que, alors c'est reparti, puissance, autorité, esprit, des yeux qui dehors prenaient des reflets, mais qui tiraient leur feu du dedans, des yeux de chef. Ce lien avec le chef, un autre détail permet de le comprendre intuitivement, c'est l'importance que revêtent dans les régimes fascistes ou d'un cousin le serment. Parce que le serment, justement, il exprime bien l'allégeance à la personne du chef et le don que le sujet fait de sa volonté, de sa personne, à travers donc le serment qui, en quelque sorte, renouvelle quelque chose de la chevalerie, mais vous voyez, d'une chevalerie pour le peuple. Pas d'une chevalerie pour des lignées aristocratiques qui seraient héritières d'un lien d'allégeance, mais enfin le peuple, vêtu d'un bel uniforme, galvanisé, peut partager quelque chose de l'honneur de la chevalerie. Qui n'est plus réservé donc à des castes intermédiaires, mais auxquelles l'épicier, le coureur cycliste, la ménagère peuvent avoir part. C'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que c'est un phénomène de masse. Avec l'importance, bien entendu, du salut. Puisque le serment donc fait le don d'une loyauté inconditionnelle et exprime donc ce qui fait, je le disais, donc pouvoir donner au peuple les vertus héroïques de l'aristocratie guerrière. Donc, vous savez que une des devises de la SS, c'était « Meine Ehre heißt Treue », « Mon honneur signifie loyauté ».« Mon honneur est loyauté ». Alors, je vous donne quelques textes de serment. Il y en a une foultitude. Je les prends dans le fascisme italien, qui est le plus caractéristique, à mon sens. Donc, les membres du parti unique, puisque donc Mussolini instaure un système de parti unique avec des députés qui sont nommés par le Conseil révolutionnaire du parti, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment un grand régime de liberté. Et donc les membres du parti prêtent le serment suivant. « Je jure de suivre sans discuter les ordres du Duce et de servir avec toutes mes forces et si nécessaire avec mon sang la cause de la révolution fasciste. » L'honneur de servir, oui, qui est l'honneur des aristocrates. L'aristocrate, c'est celui qui met son honneur dans le fait de servir. Et cet honneur, autrement dit, on a bien la transposition d'une valeur aristocratique dans le registre du peuple. Le deuxième aspect, donc, une pensée révolutionnaire. Une révolution qui revêt essentiellement un caractère moral. Une révolution qui veut affecter non pas les structures économiques, mais qui veut transformer les mentalités, la culture, les relations à l'intérieur de la nation. Donc, très loin d'être conservateur, le fascisme rejette tout ce qui est vieux. Le mot, l'injure dans la bouche d'un fasciste, c'est « vieux ». Le vieux parlementarisme, les vieilles habitudes, le vieux syndicalisme, la vieille opposition droite-gauche, etc. Le parlementarisme et la République sont associés, et parfois on devine pour quelle raison, le parlementarisme et la République sont associés donc à la décadence. Que veut dire révolution ? Révolution veut dire, premièrement, recours à la violence. Et fasciste, dès les premières heures, dans les années 1919, dans l'entourage de Mussolini, l'entourage des... Alors, il y a eu des chemises noires de Mussolini, les chemises brunes de Hitler, les chemises vertes en France, des chemises de toutes les couleurs. Mais ce qui les caractérise, c'est donc le recours à la violence par l'intermédiaire des milices, qui vont jouer le rôle d'une subversif, d'une intimidation et d'une sorte de police parallèle par rapport à l'État face à la faiblesse de l'État. Donc on va reprocher à l'État, au vieil État, aux vieilles institutions, leur faiblesse, leur tolérance, et à ces vieilles institutions, donc on va opposer l'énergie qui permet donc d'avoir recours aux gourdins, à des solutions radicales. Cette exaltation de la violence, on en connaît l'origine dans les lectures de Mussolini, puisque parmi les lectures de Mussolini, on sait qu'il y a Georges Sorel, et que Georges Sorel est justement de ceux qui ont avancé et l'idée de l'insurrection des masses et l'idée nietzschéenne du recours à la violence, comme expression de l'énergie aussi, hein, la force, la jeunesse. On reviendra sur cette jeunesse. Donc, premièrement, la révolution est caractérisée par le recours à la violence. Rappelez-vous la situation de Robatet, on ne discute pas avec ces gens-là, on les plie. Deuxièmement, elle est caractérisée par son aspect total, c'est-à-dire qu'une pensée révolutionnaire est une pensée qui veut se saisir de la totalité des secteurs de la vie sociale, l'entreprise, l'agriculture, la famille, l'Église, etc. De telle sorte que, puisque nous sommes dans un régime de masse, un régime où le peuple joue un rôle fondamental, on reviendra tout à l'heure sur cette idée de peuple, personne ne puisse se trouver isolé, caché, exempté de son appartenance à cette masse, d'où l'infiltration donc du régime fasciste dans l'entreprise, dans la paysannerie, dans tous les secteurs de la vie. Pour parler de révolution, il faut qu'il y ait une volonté totale. C'est précisément cette volonté totale qui fait qu'au fond, c'est pas vraiment de pensée politique. Parce que au fond, la dimension proprement politique naît d'une restriction de son horizon et de sa volonté, qui voudrait tout régir par l'intermédiaire d'une volonté politique, manque précisément à la politique. Il rentre dans un régime totalitaire. Et enfin, donc, troisième caractéristique de la révolution, je l'ai déjà évoqué, c'est la suppression des libertés publiques. Je m'attarde un moment sur l'antiparlementarisme, qui est très caractéristique. Parce que le fascisme naît quand il y a une crise de la représentation. Quand des gens ne se sentent pas représentés. Ne se sentent pas représentés dans tous les sens du mot, c'est-à-dire ni dans les instances politiques, ni dans les discours, ni dans les informations, ni dans la culture. Du coup, ils éprouvent une sorte d'éviction et de mépris qui nourrit leur colère et les conduit donc au rejet de tous les modes de représentation, c'est-à-dire toutes les délégations et les intermédiaires. Le spontanéisme des masses doit pouvoir évacuer la médiation des représentations. Oui. Le caractère factice, lent, discutailleur des représentations. Alors, là aussi, j'aurais pu vous fournir J'ai le souci de fournir des citations parce que, comme ce sont des textes qui ne sont pas lus, peu lus, j'aime mieux les fournir. Si vous voulez savoir beaucoup de choses, vous pouvez lire l'excellent livre de Tse Sternel, d'un auteur israélien, qui s'appelle « Ni droite ni gauche ». Vous avez de la lecture. C'est un livre qui veut un peu trop prouver, mais qui prouve beaucoup. Quand on veut trop prouver, on finit par... les preuves, vous savez, fatiguent la vérité. Mais il y a une masse de documentation passionnante là-dedans, entre autres donc, sur les origines françaises du fascisme. Et c'est comme ça, par exemple, que les fascistes français, belges, etc., sont d'emblée rentrés dans la collaboration, en reprochant même à la collaboration sa faiblesse, parce qu'ils disaient « nous ne voulons pas une collaboration, nous voulons une coopération », je ne sais plus quel était le mot qu'ils utilisaient, mais une alliance. Et entre autres, parce qu'ils ont analysé, et on les comprend, la défaite comme issue de la faiblesse du régime parlementaire et de la corruption du régime parlementaire. Il ne faut jamais oublier que l'Assemblée qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain, c'est l'Assemblée du Front populaire. Donc quand on parle du Front populaire, il faut dire que le Front populaire a terminé en donnant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et que c'est quand même un assez bon écho de la méfiance à l'égard des systèmes parlementaires auxquels les Français ont attribué leur défaite. Alors je vous lis un texte très intéressant du fasciste belge qui s'appelait Demant. Lequel fasciste belge nommé Demant était, on ne peut pas tout dire, j'aimerais passer plus de temps, mais était un proche d'Emmanuel Mounier. Et je montrerai que même des auteurs comme Emmanuel Mounier, pourtant irréprochables, ont un vocabulaire fasciste, ont un habitus fasciste dans leur pensée. Énergie, virilité, force, jeunesse, etc. Et donc Demant, qui était un proche du mouvement Esprit, est devenu fasciste, a créé les mouvements corporatistes belges. C'est un homme intelligent et intéressant. Et voilà par exemple ce qu'on peut lire sous sa plume. La guerre a amené la débâcle du régime parlementaire et de la ploutocratie. Alors ça, c'est un mot constant. Ouais. Le mépris des aristocraties d'argent. L'argent apatride. L'argent corrupteur. La ploutocratie. La guerre a amené la débâcle de la ploutocratie capitaliste dans les soi-disant démocraties. Pour les classes laborieuses et pour le socialisme, cet effondrement d'un monde décrépit, vieux monde, loin d'être un désastre, est une délivrance. Malgré tout ce que nous avons subi de défaites et de désillusions, la voie est enfin libre pour les deux causes qui résument les aspirations du peuple, la paix européenne et la justice sociale. La paix n'a pas pu sortir de la libre entente des impérialismes rivaux, elle pourra sortir d'une Europe unifiée par les armes où les frontières économiques auront été nivelées. Préparez-vous à entrer dans les cadres d'un mouvement de résurrection nationale qui englobera toutes les forces vives de la nation, de sa jeunesse, de ses anciens combattants, dans un parti unique, celui du peuple belge, uni par sa fidélité à son roi et par sa volonté. Pour mesurer à la fois le style et la violence des propos, en particulier donc des propos contre la démocratie parlementaire, j'ajoute au dossier un texte qui n'est pas sans beauté de Brasillach, qui lui-même est une figure non méprisable. Enfin, par certains côtés. Il décrit la République en un style qu'on trouvera chez d'autres. En finira-t-on jamais avec les relents de pourriture parfumée qu'exhale encore la vieille putain agonisante, la garce vérolée fleurant le patchouli et la perte blanche. La République toujours debout sur son trottoir. Elle est toujours là, la craquelée, la lézardée sur le pas de sa porte, entourée de ses michetons et de ses petits genoux aussi acharnés que les vieux. Elle leur a tant rapporté de billets dans les jartels. Comment aurait-il le cœur de l'abandonner malgré les blénorragies et les chancres ? ils en sont pourris jusqu'aux os. J'ai gardé ce texte aussi pour une raison que je n'aurai pas le temps de souligner, mais qui est l'importance des métaphores médicales liées à l'idée de corruption et d'épidémie. Se préserver d'une épidémie. Et donc le corps social assimilé à un corps vivant exposé donc à des maladies honteuses par justement la plutocratie corrompue, etc. La révolution va ainsi exalter la jeunesse. Et on sait l'importance de la jeunesse dans la perception fasciste du monde, l'importance des mouvements de jeunesse. On en voit d'ailleurs, je disais, c'est très intéressant de voir comment tout cela est déjà présent dans l'entre-deux-guerres, en particulier dans le culte de la nature dans l'entre-deux-guerres. Le camping, il y aurait beaucoup à dire sur le camping. Les sorties des jeunes gens en camping qui se rapprochent de la nature, sont énergiques, se lavent à l'eau froide, etc. Où on a bien cette manifestation donc d'une jeunesse qui est virile, énergique, témoigne de santé. C'est Brasillac qui disait « le fascisme exalte la santé ». D'ailleurs, la page que j'ai lue en dit par contraposé quelque chose. Et donc voilà, là, je lis encore tel passage de l'inépuisable René Benjamin décrivant les Balilas. Je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, les jeunesses donc fascistes, 8 millions. Les jeunesses fascistes italiennes, qui d'ailleurs avaient pour devise croire, obéir, combattre. C'est-à-dire qu'on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la transposition pour les masses des vertus aristocratiques. Alors, j'extrais dans le livre de René Benjamin un discours de Mussolini, qui a déclaré, paraît-il, en 1934, jeune, c'est le plus beau mot de la langue. Ce mot veut dire ardent. Ce mot veut dire incapable de calcul et de prudence calculatrice. Ce mot veut dire libre. Ce mot veut dire le don de la poésie, de l'enthousiasme, sans lequel les âmes se replient et les résolutions s'enlisent. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est amusant, c'est quand René Benjamin donc, il va visiter un camp de Balilas, une école de Balilas, et il observe avec joie qu'il n'y a pas de livre. C'est quand même intéressant comme remarque. Voilà, enfin, une jeunesse, lui-même, il ne doit pas être sur les rayons, voilà, enfin, une jeunesse qui n'aura pas à subir tout ce fatras de mensonges, d'artifices. Je ne sais plus quels sont les mots qu'il utilise, mais voilà, une jeunesse éduquée sans livre, évidemment, peut plus aisément déployer son énergie. Alors, là encore, donc, cela consonne avec tous les appels à la virilité que, donc, je les évoquais. Si vous connaissez un peu Emmanuel Mounier, alors Emmanuel Mounier n'a pas hésité face à, il s'est posé quelques questions par rapport à la Révolution nationale, mais ses positions ont été très tôt du côté de la résistance. Mais on voit dans l'œuvre de Mounier, dans les années 30, hein, dans ces mêmes années préparatoires de germination, de travail des consciences, l'exaltation de la virilité chez Mounier. Si vous lisez l'affrontement chrétien, vous y trouvez le même vocabulaire. Mounier parlant des vieilles vertus catholiques, de ces vieilles bigotes, et appelant chez les catholiques à des vertus viriles. Où on a donc les mêmes incantations, qui ont peut-être produit des fruits différents, mais qui disent que c'était dans l'atmosphère, quoi. C'est pas simplement un délire de quelques types dans leur chapelle, si je puis dire. Troisième caractéristique, donc une pensée politique socialiste et d'un socialisme populaire, évidemment. Puisque ce qui caractérise le fascisme, c'est la primauté du collectif. Il faut rappeler que fascisme vient du faisceau, que l'image du faisceau, c'est l'image de la force du collectif. Vous savez d'où vient l'image du faisceau ? Elle vient de cette fameuse histoire rapportée dans toutes les... de cet apologue rapporté dans tous les traités politiques, du père qui va mourir et qui veut faire comprendre à ses enfants qu'il faut qu'ils restent unis. Vous connaissez cet apologue ? Non ? Ben, je vais vous le raconter. Mais il court partout. Ce père qui va mourir, il a 4 enfants, il voudrait que ses enfants restent unis. Sans mot, il prend devant eux une brindille de bois et il la casse. Pas besoin de mots. Il prend 4 brindilles de bois et ne parvient pas à les casser. Et donc le faisceau, c'est l'idée que, c'est ce qu'on a dans les licteurs portaient les faisceaux, hein. D'ailleurs, les jeunesses, il y avait un courant des jeunesses fascistes qui était appelé les licteurs. Le faisceau, c'est cette idée que ce qui est réel et ce qui est fort, c'est l'union. Et qu'il faut rester unis. Dans le faisceau, il y a la fascination, il y a l'idée du faisceau, de ce qui resserre quelque chose de dispersé et permet donc d'exprimer la force de l'union. Et donc, si on caractérise le socialisme par le fait que l'homme réel, c'est l'homme social, c'est ce que j'avais dit dans la présentation du socialisme que j'avais faite, c'est également vrai de la pensée fasciste. C'est d'ailleurs ce qui explique aisément les trajets de la gauche à la droite d'un grand nombre d'acteurs, y compris Mussolini lui-même. Et en France, de Doriot, Déa et d'autres, qui ont suivi assez logiquement un parcours qui les conduisait de la gauche révolutionnaire à la droite révolutionnaire, avec la même haine de la plutocratie, de l'individualisme bourgeois, du parlementarisme. Par exemple, je vous lis un texte de Mussolini. « Si le libéralisme signifie individu, fascisme signifie État. Mais l'État fasciste est unique. » Et il est une création originale. Il n'est pas... Il est une création. Je relis parce que vous n'avez pas écouté. Si le libéralisme signifie individu, fascisme signifie État, mais l'État fasciste est unique, c'est une création originale. La phrase suivante, vous pouvez pratiquement l'écrire vous-même. Il n'est pas réactionnaire, mais révolutionnaire. En ce sens qu'il devance la solution de certains problèmes. Le fascisme veut que l'État soit fort, organisé et repose en même temps sur une large base populaire. L'État fasciste s'est attribué le domaine de l'économie et par les institutions corporatives qu'il a créées, le sens de l'État arrive jusqu'aux ramifications extrêmes du pays et dans l'État circulent, encadrées dans leurs organisations respectives, toutes les forces politiques, économiques et spirituelles de la nation. Un État qui s'appuie sur des millions d'individus qui le reconnaissent, le sentent, vous avez toujours le même vocabulaire, le sentent et sont prêts à le servir, n'est pas un État tyrannique. Il n'a rien de commun avec les États absolutistes d'avant ou d'après 1789. L'individu dans l'État fasciste n'est pas annulé, mais bien plutôt multiplié. Aussi, depuis le début, je parle de masse, parce que c'est une interprétation, mais le terme fasciste, c'est pas masse, c'est peuple. Cette notion de peuple est fondamentale. D'ailleurs, on la voit régulièrement réapparaître. Le peuple, c'est la nature pré-politique du lien social. C'est ce qui fait que ce peuple se reconnaît dans une langue, dans un folklore, dans des traditions, dans un honneur, dans une mémoire, etc., et qui s'oppose justement à ces représentations. Et d'où d'ailleurs le mot galvaudé aussi, mais qui n'est pas tout à fait faux, de populisme. on parle de populisme à chaque fois que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un veut discréditer les représentations au nom du peuple, au nom de la spontanéité du peuple et de sa vérité. Or, cette figure du peuple, elle court dans toutes les années qui précèdent. Hein. Elle commence chez Michelet, elle se continue encore chez Péguy, qui pourtant est très... Mais Péguy a été utilisé par les fascistes. Il n'aurait pas été... J'imagine qu'il n'aurait pas été très content. Mais ça fait rien. Il a quand même été utilisé par les fascistes. Pourquoi ? Parce qu'il parle de terre, il parle de peuple, il parle de courage, il parle d'énergie, etc. Donc le vocabulaire est là. Et je parlais des sources romantiques. On sait, je crois l'avoir déjà dit, que la notion de peuple est précisément celle que les romantiques ont promue contre l'État rationnel libéral, contre le rationalisme. Le romantisme est né, vous le savez, de la réaction des peuples européens contre le rationalisme français. Les auteurs romantiques ont fait appel au folklore, c'est-à-dire à la tradition du peuple, contre précisément les mentalités modernes, rationalistes, calculatrices. Vous voyez, le peuple est courageux, les armées modernes ne sont pas courageuses, elles sont armées jusqu'aux dents, ce sont des mécaniques. Si vous relisez les grands textes du mouvement Sturm und Drang, les textes de Herder, les textes de Schiller, vous y verrez toute l'opposition entre le monde moderne mécanique et le peuple vital. Le peuple énergique, le monde moderne calculateur, des armées mécaniques, un peuple courageux. Et donc, que ce soit dans la littérature ou la musique ou quoi que ce soit, le romantisme a toujours voulu retrouver cette vérité pré-politique du lien au peuple qui est la véritable source de l'unité. En effet, que désigne le peuple comme le chef, vous voyez, et donc c'est la symbiose du peuple et du chef. Le peuple désigne une unité transcendante politique. Et c'est pour ça que je dis que c'est un refus du politique. Ah, évidemment, ça serait bien si, au lieu de se mettre toute la journée sur la gueule entre Français, on se disait « on appartient à un même peuple ». Alors on pourrait chanter les valeurs du peuple, que sais-je. Mais à chaque fois que, précisément, on fait recours à cette antériorité du peuple par rapport aux spéculations et par rapport au débat, on fait recours donc à cette idée d'unité et de spontanéité. Le peuple est caractérisé par son unité, par sa spontanéité. Et c'est pourquoi on va chérir le folklore. Là, je cite encore... Demand, donc le Belge que je citais tout à l'heure, qui exprime, me semble-t-il, très bien cette idée, ce recours au peuple, mais on le trouverait dans bien d'autres pages. Hein. Ah non, c'est pas Demand, excusez-moi, c'est Valois. Valois est un personnage intéressant d'ailleurs, parce que il a créé en 1930 en France un parti qui s'appelait Le Faisceau. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au cours de la seconde, au cours de l'occupation, il a pris ses distances avec le régime de Vichy. Il est rentré dans la résistance. Il est mort en camp de concentration, d'ailleurs. Dans les années 30, il avait créé un mouvement qu'il avait appelé Le Faisceau, qui se voulait explicitement un mouvement fasciste sur l'imitation de Mussolini, qui était la figure admirée. Il ne faut pas oublier que Mussolini était la figure admirée. Et alors, que dit Valois ? Il dit « Le rassemblement des membres épars d'un même corps pour les ressouder à la tête, qui est l'État, au tronc qui est la nation, à son cœur qui est la famille, afin que la nation forme vraiment un corps, vous voyez donc toutes les métaphores, où tous les organes veulent chacun sa nourriture selon la nécessité et la justice, mais sont prêts à agir d'un seul mouvement, selon le commandement d'un même sang qui les parcourt, d'un même esprit qui voit et prévoit pour tout le corps de la nation. » C'est la fin de l'individualisme civique et économique. C'est l'avènement longuement préparé d'un régime social et économique nouveau. C'est la révélation au pays qui y a travaillé depuis de longues années de l'existence d'un peuple organisé formés de corps solidaires les uns des autres qui se substituent à une nation où des individus vivent juxtaposés. Aussi, ce socialisme est-il populaire et corporatiste ? Là aussi, c'est un trait bien connu de la pensée fasciste que celui du corporatisme. Le corporatisme, à la différence du syndicalisme, est chargé d'assurer les intérêts et l'union de la profession et non pas des professionnels, en quelque sorte. Le syndicat défend les intérêts des travailleurs, des ouvriers, des employés. La corporation défend les intérêts du métier, du corps de métier, et est chargée de transcender justement la lutte des classes. C'est pour ça que le grand choix, il faut se remettre aussi dans des années où le grand choix, c'était en quelque sorte ou la lutte des classes ou le corporatisme. Il y a eu un socialisme qui a parlé en termes de lutte des classes et puis un socialisme qui a parlé en termes de corporatisme pour privilégier le fait que les dissentiments que peuvent avoir les partenaires sociaux, comme on dit maintenant, sont dépassés par la noblesse du travail. Oui. Donc des thèmes comme travail, famille, patrie sont des thèmes caractéristiques du corporatisme, de l'idée d'un tissu social qui ferait l'économie du conflit, du désaccord, et permettrait donc de s'unir dans l'honneur du travail. D'ailleurs, ces régimes ne sont pas les plus mal placés dans la production de lois sociales. Les premiers congés payés, c'est Mussolini qui les a créés. Donc dans les lois fascistissimes, 1924. Et les premiers régimes de retraite aussi. Et donc le souci d'un lien social et d'une justice sociale, mais populaire et lié aux corporations, n'est pas absent de cette pensée. Évidemment, dans la mesure où ce régime est socialiste et populaire, puisque pour chaque politique, j'en ai dit un mot, j'en parle aussi pour le fascisme, il n'est pas exempt d'ambiguïté quant à son rapport à la religion. Rappelez-vous le texte de Rebattet, le fascisme est anti-catholique, anti-clérical. Et pour une raison que l'on comprend bien, c'est que l'Église met en question l'unité du peuple, l'unité magique du peuple, et son union au chef, son allégeance au chef. Un chrétien est forcément, un croyant en général d'ailleurs, est forcément un mauvais citoyen, puisqu'il a deux téléphones. Un régime autoritaire ne peut souhaiter que des citoyens qui aient un seul téléphone. Et une bonne part donc des politiques anticléricales des régimes fascistes et nazis tient justement à cette méfiance à l'égard d'une double allégeance qui fait du croyant une sorte d'étranger dans son peuple, un traître potentiel. D'ailleurs, c'est ce qui a été dénoncé par l'Église elle-même, puisque deux encycliques ont... Donc l'encyclique « Non abbiamo bisogno », prononciation non garantie, de 1931, rejette explicitement le fascisme mussolinien. Et l'encyclique « Mit Brennender Sorge » de 1937 rejette explicitement le régime nazi. Et pour des raisons que l'on comprend bien, qui sont liées au caractère païen de ces régimes politiques. Vénération du peuple, vénération du sol, vénération du sang. Rejet de la transcendance au profit de l'immanence de l'État et de la communauté, de la collectivité. même si, à la rigueur, la religion est saluée d'un hommage distant comme tradition, puisque Mussolini est, vous le savez, celui qui a réglé la question romaine en reconnaissant l'État du Vatican avec le Concordat. En résumé, avant de vous céder donc la parole pour quelques échanges, quelques questions, donc nous sommes bien devant une pensée qui a sa cohérence, qui a même, dont il faut comprendre l'attrait, parce qu'il y a un attrait de ce de cette pensée, mais qui, au fond, se présente plus comme poésie de la volonté et de l'amour, comme une exaltation de l'énergie pour, je le disais, faire taire les vieilles querelles, de telle sorte que on est devant la fuite magique, l'échappatoire symbolique par rapport aux exigences d'une politique désymbolisée. Au fond, l'entrée en politique, c'est l'entrée dans la sphère de la raison, la discussion, du débat. Et cette entrée dans la sphère de la discussion et du débat a quelque chose d'appauvrissant par rapport à ce que peut être l'exaltation d'une poésie, d'un chant plus ou moins romantique. Et il me semble que la référence, je pourrais vous fournir d'autres textes, la référence au fascisme montre bien que comment il y a dans le goût du symbole, le goût de l'enthousiasme exprimé à travers les symboles, vous l'avez tous présent dans les yeux, des images très impressionnantes, de grands rassemblements, est une certaine manière d'échapper à l'âpreté et à la relativité du débat politique.